souvenus de cette délivrance que le Seigneur nous a acquise à la croix. Nous avons aussi évoqué cette délivrance dans la prière et pourrions regarder dans l'Ancien Testament une image de cette délivrance que le Seigneur a fait pour nous. Pendant le début du livre de l'Exode, Exode au chapitre 1er, au verset 8. Et un nouveau roi se leva sur l'Égypte, qui n'avait point connu Joseph, et il dit à son peuple, « Voici le peuple des fils d'Israël est plus nombreux et plus fort que nous. Allons, soyons prudents à son égard, de peur qu'il ne se multiplie et que, s'il arrivait une guerre, il ne se joigne lui aussi à nos ennemis et ne fasse la guerre contre nous et ne monte hors du pays. Et ils établirent sur lui des chefs de corvée pour l'opprimer par leur fardeau. Et il bâtit pour le pharaon des villes à greniers, Pithon et Ramsès. Et selon qu'il l'opprimait, il multipliait et croissait, et ils eurent peur des fils d'Israël. Et les Égyptiens firent servir les fils d'Israël avec dureté et leur rendirent la vie amère par un dur service, en argile et en briques et par toutes sortes de services au champ. Tout le service dans lequel on les faisait servir était avec dureté. » Commencez par ce passage qui nous montre cette situation du peuple d'Israël. Au tout début de son voyage durant cette délivrance que Dieu va accomplir pour son peuple. Le voilà qui était en Égypte et qui a asservi. Asservi par le roi, le pharaon, qui est dans une position qui est pleine de souffrance et dure pour lui. Et c'est une image de notre situation. Lorsque nous sommes dans ce monde non-croyant, asservi à la puissance de Satan. Satan qui règne sur le monde et qui dirige toutes choses pour l'accomplissement de ses plans. Et ses plans actuels, c'est de permettre à l'homme de vivre de manière autonome, en chassant Dieu de sa vie. En étant assisté par tant de choses qui lui permettent de vivre en ne pensant pas que Dieu existe. Par les divertissements, par toutes choses, toute la technologie que l'homme a développée. Et l'homme ne se rend pas compte qu'en fait il est sous la puissance de Satan. Alors, on voit par la suite que Dieu va préparer cette délivrance. On va pas tout lire. On peut lire au chapitre 3, au verset 7. Et l'Éternel dit, « J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il a jeté à cause de ses exacteurs, et je connais ses douleurs. » Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays-là dans un pays bon et spacieux, et dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans un lieu d'habitation du Cananéen et du Héthien et de l'Amoréen et du Phérésien, et du Hévien et du Jébusien. Et maintenant, voici le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Et maintenant, viens et je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir hors d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Il y a dans ce passage Dieu qui commence à agir. Dans le chapitre 2, il avait préparé toute chose pour que Moïse vienne au monde, que Moïse soit délivré de ce décret qui avait été établi par le Pharaon de mettre à mort tous les enfants mâles. Et là, Dieu vient et se manifeste à Moïse et lui dit, voilà, moi j'ai entendu cette souffrance du peuple d'Israël au milieu des fils au milieu de l'Égypte. J'ai entendu et je suis descendu pour apporter cette délivrance. Et il va envoyer là Moïse pour être l'acteur de la délivrance du peuple. Et pour nous aussi, on a ce parallèle. Dieu, comme on l'a rappelé ce matin, qui est descendu dans la personne du Seigneur Jésus, dans le monde, au milieu de l'homme, pour le délivrer, pour lui montrer le chemin qui vient jusqu'à lui. Alors ensuite, on a tout la période où le Pharaon ne laisse pas sortir le peuple d'Israël. Et Dieu accomplit des miracles par la main de Moïse. Jusqu'au moment où on arrive à la dernière étape. On peut lire au chapitre 11, au verset 1er. Et l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur le Pharaon et sur l'Égypte, et après cela, il vous laissera aller d'ici. Lorsqu'il vous laissera aller complètement, il vous chassera tout à fait d'ici. » Et après, ensuite, au chapitre 12, au chapitre 11, au verset 4. Et Moïse dit, « Ainsi dit l'Éternel, sur le minuit, je sortirai au milieu de l'Égypte, et tout premier-né dans le pays d'Égypte mourra, depuis le premier-né du Pharaon qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et tout premier-né des bêtes. Et il y aura un grand cri dans tout le pays d'Égypte, comme il n'y en a pas eu, et il n'y en aura jamais de semblable. Mais contre tous les fils d'Israël, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, pas un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez que l'Éternel distingue entre les Égyptiens et Israël. Tous ces tiens serviteurs descendront vers moi et se prosterneront devant moi, disant, « Sors, toi et tout le peuple qui est à tes pieds, et après cela je sortirai. » Et au chapitre 12, et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, « Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, disant, « Au dixième jour de ce mois, vous prendrez chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, que lui et son voisin le plus rapproché de sa maison le prennent. » Selon le nombre des âmes, vous compterez pour l'agneau d'après ce que chacun peut manger, et vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs. Et ils prendront de son sang et en mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte aux maisons dans lesquelles ils le mangeront. Ils en mangeront la chair cette nuit-là, et ils la mangeront rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas qu'il soit à demi-cuit ou qui ait été cuit dans l'eau, mais rôti au feu, la tête, les jambes et l'intérieur. Et vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin, et ce qui en restera jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. Et vous le mangerez ainsi, vos reins sains, vos sandales à vos pieds et votre bâton en votre main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Et je passerai par-dessus l'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là vous sera en mémorial, et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel, vous le célébrerez en vos générations comme un statut perpétuel. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, dès le premier jour vous ôterez le levain de vos maisons, car quiconque en mangera du pain levé du premier jour au 7e jour, cet homme-là sera retranché d'Israël. Et le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, une sainte convocation, et ne se fera aucune œuvre en 7 jours-là, seulement ce que chacun mangera, cela seul se fera par vous. Voilà les explications de Dieu que Dieu donne concernant cette délivrance qu'il va accomplir. Il délivre son peuple, et son peuple il le délivre par un jugement sur le pays d'Égypte. Mais il veut épargner ce peuple d'Israël qui lui appartient. Et pour cela, il donne les instructions. Ces instructions qui nous parlent aussi, comme on l'a rappelé ce matin, du Seigneur Jésus. Cet agneau sans défaut et sans tache. Si c'était un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Et il fallait le tuer, le mettre à mort, et mettre le sang sur les 2 poteaux et le linteau de la porte. Et les personnes devaient rester à l'intérieur pour être délivrées. Et Dieu voyait le sang depuis l'extérieur. Pour nous, c'est pareil aussi. Il y a le Seigneur Jésus qui a été cet agneau et qui a été à notre place mis à mort. Et comme nous l'avons rappelé ce matin, dont le sang a coulé. Et c'est ce sang que Dieu voit, le sang du Seigneur Jésus, et qui nous délivre du jugement de Dieu envers le péché. Il y aura un jour pour toute personne où Dieu juge. Ce n'est pas actuellement, mais cela arrivera. Et il y aura 2 cas possibles. Il y aura ceux qui seront à l'abri du sang et qui seront délivrés. Et il y aura ceux qui ne seront pas à l'abri du sang, dont les noms ne seront pas écrits dans le livre de vie, comme cela nous est expliqué dans le livre de l'Apocalypse, qui seront condamnés à toujours loin de Dieu. Là, il y avait d'un côté les Égyptiens et de l'autre côté les fils d'Israël. Et pour que les fils d'Israël soient délivrés, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Il fallait simplement qu'ils respectent ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait donné comme instruction. Et aujourd'hui aussi, pour le salut, c'est pas quelque chose de compliqué. Il n'y a pas des choses à être un héros, à faire des choses super compliquées. Il suffit simplement de croire ce que Dieu dit et de respecter ces instructions que Dieu nous donne. Dieu nous dit, si tu confesses de ta bouche Jésus comme sauveur, tu seras sauvé. Si on reconnaît le Seigneur Jésus comme Seigneur, comme sauveur, si on reconnaît que c'est pour nous aussi qu'il est mort sur la croix, alors on est sauvé. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de plus. Et Dieu, là, voyait le sang et passait par-dessus. Alors il y avait le jugement pour le peuple de l'Égypte, mais il y avait la délivrance pour le peuple d'Israël. Première partie de la délivrance, le peuple d'Israël est délivré du jugement. Et on voit que Dieu dit, cela vous sera en mémorial pour toutes les années un statut perpétuel. Et c'est pour nous aussi, chaque dimanche, un mémorial. On se souvient de cette délivrance que le Seigneur a accomplie pour nous, la délivrance du jugement. Aussi longtemps, à partir du moment où on est sauvé, on peut se souvenir jusqu'à notre mort ou jusqu'au jour où le Seigneur Jésus viendra nous chercher. Et on peut lire au verset 25 du chapitre 12. Et lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, comme il l'a dit, il arrivera que vous garderez ce service. Et quand vos enfants vous diront que signifie pour vous ce service, il arrivera que vous direz, c'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel qui passa par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte, et il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. Voilà. Non seulement ça devait être gardé comme un statut, comme une fête à l'Éternel, pour se souvenir de la délivrance, mais ensuite, il y avait cette instruction de Dieu qui disait « Vous n'oublierez pas, et non seulement vous n'oublierez pas, mais vous le transmettrez à vos enfants pour l'expliquer, pour que la signification soit maintenue. » C'était une chose de célébrer la fête, mais il y avait ce risque qu'au fur et à mesure que les personnes qui avaient vécu cette délivrance décèdent, que la signification exacte de ce qui s'était passé soit perdue. Parce que on ne se souviendrait plus que Dieu avait accompli cette plaie et avait accompli cette délivrance d'Égypte. Et c'est pour ça aussi que c'est important que ça soit expliqué. Les choses, le culte, l'adoration, le souvenir, le mémorial du Seigneur Jésus, de son œuvre à la croix, soit expliqué pour que la signification soit claire pour tout le monde au fur et à mesure. Chaque génération expliquant à la suivante la signification du souvenir de la délivrance du Seigneur Jésus. Ensuite, donc on voit que les fils d'Israël vont être chassés par les Égyptiens. Mais après on voit que les Égyptiens vont les poursuivre pour les ramener. Et on peut lire au chapitre 14, au verset 5. Et il fut rapporté au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui. Et le cœur du Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Et ils dirent, qu'avons-nous fait de laisser aller Israël, pour qu'il ne nous servît plus? Et il attela son char et prit son peuple avec lui, et il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte, et des capitaines sur tous. Et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les fils d'Israël. Les fils d'Israël sortaient à main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars du Pharaon, et ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Tsephon. Et le Pharaon s'approcha, et les fils d'Israël levèrent leurs yeux, et voici les Égyptiens marchaient après eux. Et les fils d'Israël eurent une grande peur, et crièrent à l'Éternel, et ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir dans le désert? Que nous as-tu fait de nous avoir fait sortir d'Égypte? N'est-ce pas ici la parole que nous te disions en Égypte, disant, « Laisse-nous, et nous servirons les Égyptiens. » Car il nous vaut mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Et Moïse dit au peuple, « Ne craignez point, tenez-vous là, et voyez la délivrance de l'Éternel, qu'il opérera pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus à jamais. Et l'Éternel combattra pour vous, et vous, vous demeurerez tranquilles. » Voilà, donc les Égyptiens qui poursuivent les fils d'Israël. Les fils d'Israël qui se retrouvent coincés entre les Égyptiens d'un côté et la mer Rouge qui était infranchissable devant eux. Et Dieu permet là ces circonstances. Il a conduit ce peuple dans ce chemin pour permettre cette circonstance. Ça va être la deuxième partie de la délivrance. Les fils d'Israël avaient été délivrés du jugement par l'agneau qui avait été mis à mort et dont le sang avait été mis sur le poteau et le linteau de la porte. mais il n'était pas encore délivré du peuple d'Israël, d'Égypte. Et ces Égyptiens sont là et veulent les garder sous leur esclavage. Alors Dieu permet une deuxième partie de la délivrance quand il va ouvrir la mer Rouge pour laisser un chemin pour que le peuple puisse passer. Et tout le peuple va passer à sec et Dieu referme le chemin. Et à ce moment-là, c'est la destruction de toute cette armée des Égyptiens. On voit cela à partir du verset 15. Et alors, au chapitre 15, on voit « Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et parlèrent disant « Je célébrerai à l'Éternel car il s'est hautement élevé ». Et il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait. Jah est ma force et mon cantique, il a été mon salut, il est mon Dieu. Et je lui préparerai une habitation, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. Dieu délivre le peuple d'Israël de, cette fois-ci, l'esclavage de l'Égypte. Et le peuple d'Israël, les Hébreux, à ce moment-là, se retrouvent de l'autre côté de la mer, délivrés. Ils ne seront plus jamais asservis à l'Égypte. Et alors, dans leur joie, ils chantent ce cantique à l'Éternel. Ils célèbrent, ils louent l'Éternel. Et pour nous aussi, il y a non seulement la délivrance du jugement, mais après il y a la délivrance de l'esclavage de Satan. Dieu ne nous a pas simplement délivrés du jugement de sa colère à cause de nos péchés, mais il nous a mis à part pour être son peuple, un peuple pour lui, comme on le lit aussi dans la première épître de Pierre. On peut lire ce passage d'ailleurs dans la première épître de Pierre. Pierre 2, verset 9. Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Dieu nous a mis à part pour que nous chantons ses louanges. De la même manière que le peuple d'Israël sur l'autre côté, l'autre berge de la mer Rouge, alors nous pouvons chanter la délivrance que Dieu a accomplie pour nous. Alors, non seulement nous sommes délivrés du jugement, mais nous sommes délivrés de l'esclavage Satan. Satan cherche toujours à nous asservir, mais dans notre vie quotidienne, nous pouvons dire, voilà, Dieu m'a délivré par l'œuvre du Seigneur Jésus, alors je n'ai plus à suivre tout ce que Satan voudrait que je fasse, tout ce que la chair en moi voudrait que je fasse, tout ce que l'homme naturel fait pour son propre égoïsme, pour Satan, alors nous n'avons plus besoin de le faire, parce que nous sommes délivrés. Et alors nous sommes pour Dieu, acquis un peuple pour lui, pour faire ce qui est selon Dieu, pour accomplir les œuvres de Dieu, celles qu'il a préparées à l'avance, qui sont à la fois d'annoncer ses louanges, mais aussi d'annoncer ce chemin, de témoigner de ce chemin de la délivrance que Dieu place devant chaque pécheur. Et aussi d'accomplir tous ces fruits de l'Esprit qui nous sont présentés par l'apôtre Paul dans l'Épître à Timothée. Tout ce qui est pour Dieu un témoignage à la fois devant lui, en parfum de bonne odeur pour lui. Tout ce que nous faisons pour Dieu, ça réjouit le cœur de Dieu, à la fois aussi devant les anges qui nous observent, mais aussi devant les hommes qui nous voient et qui peuvent voir notre témoignage, notre manière d'agir et qui peuvent être aussi touchés par ce que nous faisons. Alors, pour le peuple d'Israël, s'ouvrait un chemin dans le désert où Dieu va conduire le peuple jusqu'à cette montagne à Horeb pour lui donner toutes les instructions pour l'adoration, pour tout son tabernacle, tous ses sacrifices qu'il aurait à faire. Alors je ne veux pas m'attarder sur cette partie, je voudrais aller dans le livre de Josué pour la dernière partie de la délivrance que Dieu accomplit. En Josué, au chapitre 4, non, au chapitre 3, pardon. Et Josué se leva de bonne heure le matin, et ils partirent de Sittim, et il vint jusqu'au Jourdain, lui et tous les fils d'Israël. Et là, ils passèrent la nuit avant de traverser. Et il arriva au bout de 3 jours que les officiers passèrent au milieu du camp, et ils commandèrent au peuple, disant: aussitôt que vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, et les sacrificateurs, les Lévites qui la portent, vous partirez de là où vous êtes, et vous marcherez après elle. Seulement il y aura entre vous et elle une distance de la mesure d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas, afin que vous connaissiez le chemin par lequel vous devez marcher, car vous n'avez pas passé par ce chemin ci-devant. Et Josué dit au peuple: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles au milieu de vous. Et Josué parla au sacrificateur, disant: chargez sur vous l'arche de l'Alliance, et passez devant le peuple. Et ils chargèrent sur eux l'arche de l'Alliance, et marchèrent devant le peuple. Et l'Éternel dit à Josué: aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Et toi, commande aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance, disant: lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Et Josué dit aux fils d'Israël: approchez d'ici et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Et Josué dit: à ceci vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il dépossédera certainement devant vous le Cananéen, et le Héthien, et le Hévien, et le Phérézien, et le Guirgazien, et l'Amoréen, et le Jébusien. Voici l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Et maintenant prenez 12 hommes des tribus d'Israël, un homme par tribu. Et il arrivera que, lorsque les plantes des pieds des sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, se poseront dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Et il arriva que, lorsque le peuple partit de ses tentes pour passer le Jourdain, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel étaient devant le peuple. Et comme ceux qui portaient l'arche arrivèrent au Jourdain, et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche trempèrent au bord de l'eau, or le Jourdain regorge par-dessus tous ses bords tout le temps de la moisson, les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent, et elles s'élevèrent en un monceau très loin, près d'Adam, ville qui est à côté de Tartan. et celles qui descendaient à la mer de la plaine, la mer salée, s'écoulèrent complètement, et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, et tout Israël passa à sec jusqu'à ce que toute la nation, eut achevé de passer le Jourdain. Et il arriva, quand toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, que l'Éternel parla à Josué, disant, « Prenez d'entre le peuple 12 hommes, un homme de chaque tribu, et commandez-leur, disant, « Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de là où se sont tenus les pieds des sacrificateurs 12 pierres, et vous les transporterez avec vous, et vous les poserez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Et Josué appela les 12 hommes qu'il avait désignés d'entre les fils d'Israël, un homme de chaque tribu. Et Josué leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et levez chacun de vous une pierre de son épaule, sur son épaule, selon le nombre des tribus des fils d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. » Lorsque dans l'avenir vos fils demanderont, disant, « Que signifient pour vous ces pierres ?» Alors vous leur direz que les eaux du Jourdain furent coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel lorsqu'elle passa dans le Jourdain. Les eaux du Jourdain furent coupées, et ces pierres serviront de mémorial aux fils d'Israël pour toujours. Et les fils d'Israël firent comme Josué avait commandé, et ils enlevèrent 12 pierres au milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des fils d'Israël, et ils les transportèrent avec eux au lieu de leur campement, et les posèrent là. Et Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient tenus les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles sont là jusqu'à ce jour. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche s'arrêtèrent au milieu du Jourdain, jusqu'à ce que tout ce que l'Éternel avait commandé à Josué de dire au peuple fût exécuté, selon tout ce que Moïse avait commandé à Josué, et le peuple se hâta et passa. Et quand tout le peuple eut achevé de passer, il arriva que l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Voilà la troisième partie de la délivrance. De nouveau, le peuple est devant les eaux, mais les eaux du Jourdain cette fois-ci. Ils doivent le franchir et Dieu donne les instructions pour franchir le Jourdain. Le Jourdain qui regorgeait par-dessus tous ses bords. Il y avait beaucoup d'eau comme une inondation. Et le signe, la clé de cette étape, c'était l'arche de l'Alliance de l'Éternel. L'arche qui nous parle du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, il a été pour nous dans la mort. Mais il n'est pas resté, il est ressuscité. Et l'arche, ici, l'arche se tient au milieu du Jourdain, et après, elle sort du Jourdain. Et elle passe devant le peuple d'Israël. Et pour nous, le Seigneur Jésus, il est passé devant nous. Et il y aura encore une étape de la délivrance. Le Seigneur est passé dans la mort, et il a subi la mort pour nous afin de nous délivrer. Et si nous passons par la mort, alors il n'y a pas l'anxiété, il n'y a pas ce poids pesant de la mort, parce que le croyant sait que comme il est délivré, alors le passage n'est que un passage vers le Seigneur Jésus, vers la maison du Père. C'est une délivrance du croyant qui est délivré de sa situation terrestre pour aller dans la maison du Père, pour être là pour toujours. Et il y a une autre signification, c'est aussi le passage pour les fils d'Israël qui rentraient dans le pays promis. Et pour nous, c'est aussi l'introduction, notre possibilité d'entrer dans les bénédictions que Dieu nous a données, dans tout ce que Dieu nous a promis et qui nous est acquis par la mort du Seigneur Jésus. Et on voit alors que Josué demande à ses 12 hommes de prendre des pierres du milieu du Jourdain pour les placer comme un mémorial dans le pays de l'autre côté du Jourdain, dans le pays que Dieu avait promis à son peuple. C'est là le deuxième mémorial. Et pour nous, c'est de nous souvenir chaque jour que le Seigneur Jésus nous a délivrés et que maintenant, nous ne sommes plus asservis, mais que nous sommes pour rentrer dans ces bénédictions, marcher avec Dieu, et nous sommes ressuscités avec lui, et nous pouvons marcher en nouveauté de vie par la nouvelle nature que Dieu nous donne. Et il y avait aussi ces 12 pierres que Josué dresse au milieu du Jourdain. Alors une fois que le Jourdain était revenu, que l'eau était revenue, ces pierres n'étaient plus visibles. Une image de notre chair, de notre ancienne nature qui doit rester dans la mort et qui ne doit plus agir dans notre vie. Et nous devons marcher alors en nouveauté de vie. Il y a d'un côté ces pierres qui sont dans le Jourdain, dans la mort pour nous, l'ancienne, notre chair qui reste dans la mort, notre propre volonté, ce que nous faisons lorsque nous sommes loin de Dieu, lorsque nous marchons comme ceux qui ne sont pas convertis, et nous devons les laisser dans la mort, nous devons ne plus la considérer comme vivante. Nous devons dire, non, tu as eu ta fin là, au moment de la traversée du Jourdain, et maintenant, tu n'as plus de droit sur nous. Nous devons rejeter tout ce que cette chair nous suggère de faire pour marcher dans le pays promis, c'est-à-dire pour marcher dans les bénédictions que Dieu nous donne, selon ce que Dieu nous appelle à faire, et faire sa volonté à lui. Et nous avons pour souvenir... les fils d'Israël avaient pour souvenir ces 12 pierres qui étaient dressées dans le pays. Et pour nous, nous pouvons nous souvenir que le Seigneur Jésus, il est ressuscité. Et que s'il est ressuscité, alors en position. Nous sommes aussi ressuscités avec lui et que nous sommes là maintenant pour marcher avec lui comme étant, pour ainsi dire, comme lui. Marchant avec lui. Et nous devons tendre en nous nourrissant du Seigneur Jésus, en voyant comment lui a marché et ce qu'il est, nourrissant de lui, à tendre à marcher comme lui a marché pour être comme lui. Bien sûr, nous n'arriverons jamais à être comme lui parce que lui, il était parfait. Mais c'est ce vers quoi nous devons tendre, marcher en résurrection de vie. C'est la troisième partie de la délivrance, et c'est à la fois pour maintenant, mais aussi pour le jour si nous devons passer par la mort. Il y a trois étapes de cette délivrance, trois étapes pour nous et trois étapes qui étaient là pour le peuple d'Israël comme image pour nous aujourd'hui.